Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, vous écoutez la web radio du Collège Anne Frank. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. Et oui, c'est déjà la toute dernière de l'année scolaire. Pour l'occasion, notre équipe s'est surpassée pour vous concocter un programme ultra riche. On va voyager dans le temps, explorer des mystères, parler de langues, de cinéma, de sport, bref, restez avec nous. On démarre tout de suite avec une boisson que vous connaissez tous, mais dont vous ignorez peut-être les origines. On écoute tout de suite Lola et Tom pour l'histoire du thé.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom et Lola pour Radio Anne Frank.
Aujourd'hui, on vous emmène en voyage autour du monde. Avec une simple feuille, celle du thé. Prêt à découvrir ses secrets ?
Tout commence en Chine, en 2737 avant notre ère. L'empereur Shenong, célèbre pour ses connaissances en médecine, faisait bouillir de l'eau sous un arbre. Soudain, une bourrasque agite les branches, des feuilles tombent dans l'eau chaude.
Résultat, une boisson dorée, parfumée, délicieuse. Shenong goûte, adore et
le thé est né.
Depuis, il est devenu la boisson la plus bue au monde après l'eau.
Attention, le thé contient de la caféine, appelée théine, qui peut exciter. Les médecins conseillent d'attendre 12 ans avant d'en boire régulièrement. Mais pas de panique, il existe des tisanes sans caféine, parfaites pour les feux jeunes.
On vous propose maintenant un petit tour du monde des thés préférés.
Au Royaume-Uni, c'est le thé noir qui règne en maître, souvent servi avec du lait et du sucre. Les Britanniques en boivent 100 millions de tasses par jour.
Au Japon, le matcha, une poudre de thé vert, est star. On le fouette pour obtenir une boisson mousseuse, utilisée aussi dans les desserts. En Chine, le thé vert est roi, apprécié pour ses bienfaits santé et son goût frais. Et en France, on aime le thé parfumé, à la vanille, aux fruits rouges et les grands salons de thé.
Et pour finir, est-ce que vous saviez qu'il existe plus de 1500 variétés de thé dans le monde et que le thé se cultive sur des théiers, des arbres qui peuvent vivre plus de 100 ans?
Merci à vous deux. On sait maintenant quoi boire pendant nos révisions. Après cette pause détente, on reste dans l'histoire, mais on remonte beaucoup plus loin, à l'époque des Gaulois et des Romains. C'est l'heure du grand choc, direction la bataille d'Alésia avec Amael et Louise.
Aujourd'hui, retour sur l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de France.
Deux hommes, deux destins.
Jules César veut conquérir la Gaule.
Vercingétorix veut la défendre. Tout commence avec Vercingétorix. Né vers 82 avant Jésus-Christ, il est le fils d'un chef gaulois. Fait prisonnier par les Romains, il passe du temps aux côtés de César. C'est là qu'il apprend l'art de la guerre et la stratégie militaire romaine, avant de retourner chez lui.
En face, Jules César, né en l'an 100 avant Jésus-Christ. Issu d'une famille très prestigieuse qui prétend descendre de la déesse Vénus, il grimpe rapidement tous les échelons de la politique à Rome. Pour augmenter son pouvoir et sa gloire, il décide de se lancer à la conquête de la Gaule en 58 avant Jésus-Christ.
Au début, les Romains enchaînent les victoires faciles. Mais en 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix réussit l'exploit d'unir les tribus gauloises. Il utilise la ruse, pas d'attaque de front, mais des embuscades dans les bois pour harceler l'armée romaine. César réalise alors que son nouvel ennemi est le jeune homme qu'il a lui-même formé. Le premier grand choc a lieu à Gergovie. C'est une forteresse gauloise perchée sur un plateau, très difficile d'accès. César tente de l'encercler, mais Vercingétorix et ses troupes lancent des assauts incessants. C'est une grande victoire pour les Gaulois.
Mais la roue tourne. Quelques mois plus tard, Vercingétorix se retrouve à son tour encerclé dans la forteresse d'Alésia. César fait construire un double piège de fortifications géantes pour affamer les Gaulois. Privé de nourriture et de renforts, Vercingétorix est obligé de se rendre. Il est emmené à Rome, où il sera exécuté en 46 avant Jésus-Christ. Grâce à cette victoire, César devient l'homme le plus puissant de Rome. Il déclenche une guerre civile, élimine ses rivaux et se fait nommer dictateur à vie. Mais ce pouvoir absolu déplaît fortement. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, César est poignardé à mort en plein Sénat par d'anciens alliés.
Vercingétorix et César, deux généraux, deux génies qui ont marqué l'histoire, mais qui ont tous les deux connu une fin tragique.
Un moment clé de notre histoire. Merci pour ce focus sur Vercingétorix et César. Nous poursuivons notre page historique avec un sujet plus récent, crucial pour le devoir de mémoire et qui résonne tout particulièrement dans notre établissement qui porte le nom d'Anne Frank. nous vous allons parler de l'histoire de la Shoah.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la rubrique Histoire, nous avons décidé d'aborder un sujet difficile, celui de la Shoah, parce qu'il est important de ne pas oublier ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi d'Adolf Hitler met en place une politique d'exclusion et de destruction des Juifs d'Europe. Dans les années 1930, les Juifs perdent leurs droits, interdiction de travailler ou de fréquenter les non-Juifs. Puis viennent les rafles. Les familles sont arrêtées et entassées par centaines dans des wagons à marchandises, sans espace pour s'asseoir, direction les camps de concentration et d'extermination comme celui d'Auschwitz. À l'arrivée, les prisonniers subissent un tri terrible. Les personnes jugées inaptes au travail, notamment les enfants et les personnes âgées, sont immédiatement envoyées vers les chambres à gaz. Les autres deviennent des travailleurs forcés, subissant des conditions de vie inhumaines, crâne rasé pour les humilier, famine et maladie. Face à l'Allemagne nazie, les Alliés, menés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS, contre-attaquent. Le 6 juin 1944, ils débarquent en Normandie et font reculer les nazis. Le 27 janvier 1945, l'armée soviétique libère les camps d'Auschwitz. Finalement, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Hitler, lui, s'est suicidé quelques jours plus tôt, le 30 avril. Le bilan de la Shoah est terrifiant. 6 millions de Juifs ont été assassinés, ce qui représentait les deux tiers de la population juive d'Europe. Après la guerre, lors du procès de Nuremberg, les dirigeants nazis ont été jugés pour crimes contre l'humanité.
Merci pour cette chronique essentielle et émouvante. On change à présent totalement de registre pour s'envoler vers des zones géographiques pleines de secrets. On part vers l'Atlantique pour tenter de percer le mystère du célèbre triangle des Bermudes.
Ici Paul, Amy, Anna et Lucas qui n'est malheureusement pas là. Aujourd'hui, on embarque pour une zone où votre GPS risque de devenir totalement fou.
On part pour le triangle des Bermudes, aussi appelé le triangle du diable.
Imaginez une zone géante entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, un endroit où les bateaux et les avions semblent s'évaporer dans la nature.
Et ça, ça ne date pas d'hier. Même Christophe Colomb, en route pour l'Amérique, notait déjà dans son journal que sa boussole perdait le nord.
Le cas le plus flippant, le 5 décembre 1945. Le célèbre vol 19, 5 bombardiers américains disparaissent en plein entraînement.
Les pilotes étaient pourtant des pros. Ils étaient juste à côté de leur base, mais impossible de les repérer. Pouf ! Volatilisés !
En tout, on compte environ 190 bateaux et 80 avions perdus dans le secteur. Ça fait froid dans le dos, non ?
Forcément, ça fait chauffer les cerveaux. Dans les années 70, un écrivain nommé Charles Berlitz a fait un carton avec un livre sur le sujet. Pour lui, c'est clair, le triangle cache en fait l'Atlantide, la fameuse cité sous-marine disparue.
Ou alors ce sont des extraterrestres qui ont installé un portail pour kidnapper nos bateaux et nous analyser comme des fourmis.
Bon, on redescend sur Terre. On a une question pour vous. Si c'est si dangereux, pourquoi des milliers d'avions le traversent encore chaque jour sans problème?
La réponse est toute bête, parce que ce n'est pas si dangereux que ça.
En gros, si un bateau coule dans le Pacifique, personne n'en parle. Mais s'il coule dans le triangle des Bermudes, ça fait la une de YouTube et de TikTok.
Il y a quand même une explication scientifique sérieuse. Les bulles de méthane.
Oui, des chercheurs russes ont montré que des tremblements de terre sous-marins libèrent du gaz méthane. Ça crée d'énormes bulles qui rendent l'eau beaucoup moins dense. Résultat, le bateau ne flotte plus et coule d'un coup. Et si le gaz monte dans l'air, il peut même bousiller les moteurs d'avion.
Voilà, le mystère est presque résolu. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse.
Merci de nous avoir écoutés.
À la prochaine pour une nouvelle enquête.
C'est à en perdre la boussole. Merci beaucoup. Et puisqu'on est plongé dans les grands mystères de notre planète, restons dans l'eau, mais changeons de décor. Direction les brumes de l'Écosse pour aller saluer une créature de légende. Est-ce un mythe ou une réalité? Voici la chronique sur le monstre du Loch Ness.
Salut à tous, ici Simon et Esteban. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende qui pèse lourd, très lourd.
Direction l'Écosse, au bord d'un lac sombre et glacial, le Loch Ness. Tout le monde connaît son habitant le plus célèbre, Nessie. Mais alors, monstre préhistorique ou grosse arnaque? On fait le point.
Tout commence il y a très longtemps, au 6e siècle. Un moine, Saint Columba, aurait carrément sauvé un homme des crocs d'une créature dans le lac. Mais le vrai buzz mondial explose en 1933.
Un journal local publie un article sur une énorme bête aperçue à la surface. À l'époque, c'était le choc. Tout le monde veut sa photo de la star.
En 1934, une photo fait le tour du monde. On y voit un long cou sorti de l'eau. C'est la photo du chirurgien. Pendant 60 ans, c'était LA preuve ultime, jusqu'en 1994.
Coup de théâtre. On découvre que c'était un canular. Un simple jouet en plastique monté sur un sous-marin miniature. Eh oui, les fake news existaient déjà avant TikTok.
Pourtant, les témoignages continuent. Des bosses, des formes sombres, des remous bizarres. Alors, les scientifiques ont sorti le grand jeu. Sonar, caméra sous-marine et même des analyses ADN de l'eau en 2018.
Le verdict ? Zéro trace de dinosaures. Pas de plésiosaures ayant survécu par miracle. Ce que les chercheurs ont trouvé en énorme quantité, par contre, sont les anguilles.
Si Nessie n'est pas un monstre, c'est quoi ? Les experts ont plusieurs pistes. Des anguilles géantes.
Des effets d'optique avec les vagues.
Ou simplement des troncs d'arbres qui flottent.
Conclusion. Même si la science nous dit qu'il n'y a rien, la légende, elle, reste bien vivante. Nessie est devenue une star du tourisme et continue de nous faire rêver.
Alors, Nessie existe-t-il vraiment ? Le mystère reste entier. Quittons les légendes écossaises pour revenir dans les couloirs de notre collège. Vous le savez, à Anne-Franck, on a de la chance. On peut apprendre plusieurs langues, mais quelles sont leurs spécificités ? On fait le point sur les différentes langues enseignées au collège.
Salut à tous, je suis Léa.
Et moi, c'est Chloé. Aujourd'hui, on vous embarque pour un tour d'Europe express, sans quitter la cour de récré.
On va explorer les secrets des quatre langues qu'on étudie ici au Collège Anne-Franck. Attachez vos ceintures, on décolle.
Premier arrêt, l'Italie. Saviez-vous qu'avant de payer en euros, les Italiens utilisaient la lire ?
Et si vous y allez, vous ne pouvez pas rater le Colisée. C'est un colosse de pierre vieux de presque 2000 ans. Sa construction a commencé en l'an 70 et s'est terminée 10 ans plus tard sous l'empereur Titus.
Impressionnant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'assiette. La star là-bas, c'est bien sûr la pizza margherita. Simple, efficace et aux couleurs du drapeau d'Italie.
On remonte vers le nord, direction l'Allemagne. Là-bas aussi, l'euro a remplacé une ancienne monnaie, le Deutsche Mark.
Côté monument, c'est à Berlin que ça se passe avec la célèbre Porte de Brandebourg. Elle a traversé l'histoire, surtout pendant la période où la ville était coupée en deux.
Et pour reprendre des forces, on commande un schnitzel. C'est une escalope panée ultra croustillante, servie avec des frites. De quoi se régaler après un cours de grammaire.
Wait a minute. Petit rappel important pour l'Angleterre. Contrairement à nos voisins, ils n'ont jamais lâché leur monnaie. On y paye toujours en livres sterling.
En parlant de Londres, vous entendrez forcément sonner Big Ben, l'horloge la plus célèbre du monde. C'est un monument incontournable.
Et si vous avez une petite faim entre deux averses, direction le stand de fish and chips. Du poisson frais, de la friture, so British.
On termine notre voyage sous le soleil de l'Espagne. Avant l'euro, les Espagnols utilisaient la pesta.
En Espagne, on sait prendre son temps. La preuve avec la Sagrada Familia, à Barcelone. C'est le monument le plus visité du pays. Et pourtant, elle est encore en travaux aujourd'hui.
Un chantier éternel, un peu comme notre faim devant une bonne paella valenciana. C'est le plat convivial par excellence pour finir ce podcast en beauté.
Voilà, notre tour d'horizon est terminé. On espère que ça vous a donné envie de réviser vos vrais verbes irréguliers.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Léa.
Et Chloé.
Pour la web radio. À bientôt.
Thank you. Gracias. Danke. C'est l'heure de notre rendez-vous popcorn de l'émission. Pour occuper vos après-midi d'été, notre expert maison a sélectionné le meilleur du grand écran. On retrouve tout de suite la rubrique cinéma et les derniers coups de cœur de David.
Merci Valentin. Aujourd'hui, on sort les popcorns car j'ai sélectionné pour vous le meilleur et le moins bon du côté ciné de ces derniers mois. On commence par mon immense coup de cœur, du moins jusqu'à maintenant, La couleur des sentiments. Ça raconte le combat des servantes noires aux États-Unis dans les années 50. C'est puissant, c'est porté par Emma Stone, bref, et c'est un 10 sur 10 direct. Bon, si vous n'aimez pas les films, lisez au moins le livre, mais ne passez pas à côté. Autre pépite historique, mais cette fois en France, Les enfants de la résistance. Si vous êtes fan de la BD, vous allez adorer l'adaptation. On y suit trois gamins qui jouent les espions et multiplient les sabotages contre les nazis. C'est passionnant et ça mérite aussi un 10 sur 10. Dans le même genre, Le Tableau Volé nous embarque dans une enquête sur une œuvre d'art disparue pendant la guerre. C'est un très bon mélange de drame et d'humour. Je lui donne un 7 sur 10. Du côté des nouveautés de 2026, on retrouve Timothée Chalamet dans Marty Supreme. Il joue un champion du ping-pong des années 80. C'est hyper stylé et bien écrit, même s'il y a des passages un peu particuliers. C'est un solide 8 sur 10. Par contre, gros carton en salle, mais une petite déception pour moi, avec Le Marsupilami de Philippe Lachaud. C'est l'histoire de ce bébé marsupilami caché dans un colis. Cette histoire, elle est sympa, mais bon, c'est un peu léger face aux autres films. Pour moi, ce sera un 5 sur 10. On termine avec deux films très forts sur la vie et la différence. D'abord, Partir un jour, l'histoire d'une chef cuisinière qui retrouve son amour de collège en rentrant dans sa ville natale. C'est une immense beauté. Je note 8 sur 10. Et enfin, ne manquez pas le biopic Plus fort que moi. C'est l'histoire vraie de John Davidson dans les années 80. À l'époque, personne ne connaissait le syndrome de la Tourette dont il est atteint. À cause de ses tics, tout le monde le prenait pour un fou. C'est un film super important pour apprendre à regarder la différence autrement. C'est l'un des derniers films que j'ai vu et si vous allez le voir, attention, sortez les mouchoirs car il est très triste. Mais à part ça, je l'ai adoré. Il est porté par l'excellent Robert Aramayo et Shirley Anderson. Si je pouvais lui mettre une note de 11 sur 10, je lui mettrais. Mais il va devoir se compter dans l'excellent 10 sur 10. Merci de m'avoir écouté pour le bilan de mes derniers films vus. Il y en a bien d'autres, hein, rassurez-vous, mais si je les mettais, il y en aurait beaucoup trop. Donc, bref, je vous dis à bientôt sur Radio Anne Frank et je redonne la parole à notre cher Valentin.
Merci beaucoup David. On prend des notes pour nos prochaines sorties ciné. Après les écrans des salles obscures, on passe aux écrans de nos smartphones et de nos ordinateurs. On va parler création de contenu et vidéo avec une influenceuse qui cumule les vues et les abonnés. Aujourd'hui, on vous dresse le portrait de la youtubeuse Mademoiselle Fantasia.
Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui sur Radio Anne Frank, on zoome sur une créatrice qui brise les tabous, Mademoiselle Fantasia. De son vrai nom, Laurie, cette grenobloise ne se contente pas de faire défiler les vues. Depuis l'âge de 12 ans, elle réalise des courts-métrages poignants sur la santé mentale et les galères du quotidien. Son créneau, mettre des noms et des mots sur l'anxiété et les sujets dont on n'ose pas toujours parler.
Et les chiffres donnent le tournis. 3,2 millions d'abonnés sur TikTok et presque 1 million sur YouTube. Véritable porte-parole de notre génération. Elle a franchi une nouvelle étape le 6 novembre dernier avec la sortie de son livre qui s'intitule « Danser sous l'orage », un guide précieux pour tous ceux qui cherchent leur place et veulent vaincre leur peur.
Merci beaucoup. Pour notre tout dernier sujet de l'année, on quitte le monde virtuel pour se mettre au vert avec un sport qui allie passion, nature et complicité avec l'animal. On chausse ses étriers et on se met en selle pour une chronique dédiée à l'équitation.
Bonjour, moi c'est Lysia et avec Angéline, on va vous parler des chevaux et de l'équitation. Mais est-ce que vous savez ce qu'est réellement l'équitation ? L'équitation, c'est l'art de monter et de diriger un cheval. Mais c'est bien plus que ça. C'est une activité qui peut être un sport, un loisir ou même une passion. On peut faire de l'équitation pour se détendre, pour se dépasser ou simplement pour partager des moments complices avec son cheval. Saviez-vous que l'équitation existe depuis des milliers d'années ? Déjà, les Grecs et les Romains l'utilisaient pour la guerre ou les compétitions.
Pour être aussi actif, un cheval a besoin d'un bon régime alimentaire. Un cheval, c'est un peu comme un gros sportif. Il a besoin d'une alimentation équilibrée. La base, c'est le fourrage, du foin ou de la paille à volonté. C'est comme si on mangeait des légumes tous les jours. Mais si le cheval travaille beaucoup, par exemple s'il fait des compétitions ou de longues balades, on peut ajouter des aliments concentrés, comme des granulés ou des flocons pour lui donner plus d'énergie. Et n'oublions pas l'eau, un cheval boit entre 20 et 50 litres par jour selon la saison.
Les chevaux ont toujours été les partenaires de l'homme. Avant les voitures, ils tiraient les calèches et les chariots, aidaient aux champs et même transportaient le courrier. Aujourd'hui, ils ont encore plein de métiers. Police montée, ils patrouillent dans les parcs ou lors de grands événements. Sport, dressage, saut d'obstacles, cross, endurance, il y en a pour tous les goûts. Loisirs, balades en forêt, randonnée ou même équithérapie pour aider les personnes en difficulté. Cinéma, certains chevaux deviennent des stars, comme ceux des films Le Seigneur des Anneaux ou Spirit.
Pour moi, l'équitation, c'est un sport super dynamique. Il faut être à l'écoute de son cheval et surtout ne pas oublier de le féliciter après un bon effort. C'est comme un vrai partenaire.
L'équitation, c'est à la fois un sport et un loisir. C'est mon activité préférée. Mais ce que j'aime le plus, c'est créer un lien spécial avec mon cheval. Quand on se comprend, c'est magique.
Une dernière info pour la route. Le saviez-vous, un cheval peut dormir debout, mais il a besoin de s'allonger pour un sommeil profond et il communique beaucoup avec ses oreilles et sa queue.
Merci de nous avoir écoutés.
Et voilà, c'est sur cette note sportive et galopante que se referme non seulement cette émission, mais aussi notre antenne pour cette année scolaire. Un immense merci à toute l'équipe de journalistes, de chroniqueurs et de techniciens qui ont travaillé dur toute l'année pour vous proposer des contenus de qualité sur la web radio du Collège Anne-Franck. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et soutenus. On vous souhaite à tous d'excellentes vacances d'été, reposez-vous bien et on se retrouve à la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques. Prenez soin de vous et à bientôt sur Radio Anne-Franck.